Et le journal c'est vous, Hélène Philippe, bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous, va-t-on vers une alliance à gauche à 4 mois de la présidentielle? Arnaud Montebourg prêt à remettre sa candidature en jeu face au péril, dit-il, de l'extrême droite. Il appelle au rassemblement de la gauche. Anne Hidalgo sera ce soir aux 20h de TF1. La démission d'un ministre condamné par la justice, Alain Griset n'a pas tout dit de son patrimoine quand il est entré au gouvernement. Emmanuel Macron salue son esprit de responsabilité, triste de le voir quitter ses fonctions. Dans l'actualité encore, l'OCDE revient à la charge sur l'âge de départ à la retraite, qu'elle juge trop bas en France. Une chancelière s'en va, un autre arrive en Allemagne. Olaf Scholz promet aux Allemands un nouveau départ. Et Angela Merkel quittera-t-elle vraiment la vie publique? Et puis un succès fou, le 100e tome du manga One Piece est sorti en France aujourd'hui et les libraires ont été assaillis. Et au téléphone sonne Fabienne.
Et bien toujours au cœur du Parlement de Bruxelles, Hélène, où l'on voit passer toujours les députés et conseillers. À vous de participer désormais à la discussion sur cette présidence française qui commence dans trois petites semaines. Nous allons nous attarder sur le sujet à la fois le plus délicat, le plus explosif peut-être, celui des migrants, absence de solidarité, vision opposée, accueil confus, crise régulière. Voilà tout ce qu'il y a sur la table. Vous en discuterez avec Margaritis Skinas, qui est le vice-président de la Commission européenne. C'est lui qui a fabriqué un pacte global pour la migration qui reste pour l'instant au milieu du guet, avec le chercheur François Gémen qui est là aussi. Vos appels sont attendus au 01 45 24 7000.
France Inter. Le rassemblement de la gauche est devenu urgent pour Arnaud Montebourg, qui prend la plume ce soir. Face, écrit-il, au péril de l'extrême droite incarnée par Marine Le Pen et Éric Zemmour, le candidat appelle à l'union de la gauche. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Arnaud Montebourg prêt à s'effacer derrière un projet commun, un candidat unique?
Je suis prêt, dit-il, à offrir ma candidature à un projet commun et un candidat commun. C'est un message intitulé « Lettre au peuple de gauche ». L'extrême droite est aux portes du pouvoir, écrit Arnaud Montebourg. Ma responsabilité est donc de réagir pendant qu'il n'est pas trop tard. Et il précise « La solution est celle du rassemblement et la construction d'un projet d'intérêt national. Pas plus de précision sur les contours que pourrait prendre cette nouvelle union de la gauche. Sans argent pour financer la campagne et crédité d'1 à 3% d'intention de vote, Arnaud Montebourg n'avait plus beaucoup d'autres alternatives. Il plaidait déjà ce matin dans la presse pour une unification des projets et des candidatures de gauche. De se poser en rassembleur lui offre une porte de sortie honorable, explique un ancien proche du candidat qui ajoute « C'est un geste qui pourrait tout de même changer le cours de la campagne ».
Et est-ce que ça fait bouger les lignes pour les autres candidats?
Absolument. La meilleure preuve, c'est la multiplication des apparitions dans les médias. Anne Hidalgo, ce soir, aux 20h de TF1, son entourage laisse entendre qu'elle pourrait faire des annonces de nature à renverser la table à gauche. En parallèle, Jérôme Jadot, le candidat écologiste, sera demain matin sur une autre radio. Aucun de ses lieutenants ne veut pour l'instant commenter la situation. Une certitude, cette annonce risque d'obliger l'ensemble des candidats de gauche à se positionner.
Yannick Jadot, le candidat écologiste à la présidentielle. Merci beaucoup Antoine. Moment critique pour la gauche à 4 mois de l'élection. Arnaud Montebourg qui refuse, dit-il, la fatalité des 5 candidatures à gauche. Ça risque encore de bouger dans les prochaines heures. Alain Griset va faire appel, mais le ministre délégué au PME quitte donc le gouvernement après sa condamnation aujourd'hui. Reconnu coupable d'avoir dissimulé une partie de son patrimoine à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique au moment où il est entré au gouvernement. Bonsoir Laurélie Carrive.
Bonsoir.
Alain Griset est condamné avec sursis à 6 mois de prison et 3 ans d'inéligibilité.
Oui, pour les juges, il y a eu de la part d'Alain Griset, je cite, une véritable volonté de dissimulation d'une partie substantielle de son patrimoine. On parle ici d'un plan d'épargne en action de 171 000 euros. Quand l'ancien artisan taxi entre au gouvernement en juillet 2020, il n'en fait aucune mention sur sa déclaration à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. C'est seulement quand il est interrogé à ce sujet qu'il explique qu'une partie de l'argent sur son compte n'est pas à lui, que la Confédération des artisans du Nord qu'il présidait jusque-là lui a confié 130 000 euros pour qu'il les fasse fructifier. À l'audience, il y a 2 mois, le ministre a plaidé la maladresse, se défendant de toute malhonnêteté. Le parquet avait requis 10 à 12 mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal a finalement été moins sévère. S'il estime qu'il y a bien eu dissimulation dans un premier temps, il prend en compte les efforts du ministre pour justifier ensuite sa situation et constate qu'on n'est pas là face à un complexe montage financier, mais dans un compte ouvert en France, au nom d'Alain Griset, son avocat Patrick Maisonneuve.
Le tribunal a bien noté que ce PEA existait dans son agence bancaire, que ce n'est pas un compte à l'étranger avec une société écran ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas de manœuvre de sa part caractérisée que l'on peut retrouver dans d'autres dossiers. Le tribunal a tenu à relever ce point.
Même si la décision des juges est entièrement assortie de sursis, Patrick Maisonneuve a donc annoncé faire appel et rappelé que d'ici un deuxième procès, Alain Griset restait présumé innocent.
Cela reste le premier ministre en exercice à être ainsi condamné et malgré l'appel, il décide de démissionner. Emmanuel Macron a salué tout à l'heure son esprit de responsabilité. Très triste, dit-il, de le voir ce soir quitter le gouvernement. Bonsoir Philippe Lefebvre.
Bonsoir.
C'est Jean-Baptiste Lemoyne qui va le remplacer.
Oui, alors Jean-Baptiste Lemoyne était, il y a encore quelques heures, secrétaire d'État au tourisme, à la francophonie, aux Français de l'étranger. Et il est, depuis le début de la crise sanitaire, au cœur du dispositif gouvernemental d'aide aux entreprises du tourisme. C'est lui, notamment, qui a été à l'origine de l'avoir en 2020, qui a permis d'éviter qu'au plus fort de la crise, la majeure partie des agences de voyage mettent la clé sous la porte et qu'elles puissent, au final, rembourser tous leurs clients. Il a été en première ligne, il a participé à toutes les réunions avec les professionnels du tourisme, mais aussi avec ceux de l'hôtellerie, de la restauration, des PME. Donc il connaît bien les dossiers qu'il continuera de suivre depuis son bureau du 15e arrondissement dans une annexe du ministère des Affaires étrangères, car c'est là la particularité de cette nomination. Il sera ministre délégué auprès de deux ministres, Jean-Yves Le Drian aux Affaires étrangères pour la partie tourisme et Bruno Le Maire à Bercy pour les PME. Et les premières réactions ce soir sont unanimes. C'est une très bonne nouvelle, affirment en chœur les principaux syndicats de l'hôtellerie, de la restauration et des entreprises du voyage.
Philippe Lefebvre. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron est à Vichy. Déplacement hautement symbolique. Gardons-nous de manipuler l'histoire, a prévenu le chef de l'État ce matin sur l'antenne de nos confrères de France Bleu, Pays d'Auvergne. Adresse assez claire au candidat d'extrême droite Éric Zemmour qui affirme régulièrement que le maréchal Pétain a protégé les Juifs français. Et dans cette ville, Vichy, chargée du passé de la Seconde Guerre mondiale, c'est une visite que vous suivez. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Visite pour l'histoire et la mémoire.
Jamais un président ne s'était rendu ici sur les lieux mêmes de la collaboration. L'hôtel du Parc, bureaux et appartements de Pétain devant lequel une stèle aux Juifs déportés a été érigée. L'opéra, lieu du pouvoir vichiste, où 80 parlementaires le 10 juillet 40 ont dit non au maréchal. Emmanuel Macron, aux côtés des époux Klarsfeld, l'image se suffit à elle-même, nous dit Serge Klarsfeld.
C'est une réponse à l'extrême droite. Le président est un rempart contre l'extrême droite et nous espérons que aux prochaines élections présidentielles, il y aura deux candidats républicains plutôt qu'un candidat républicain contre un candidat d'extrême droite.
La réponse à l'extrême droite, évidemment le candidat est juste là derrière le président, mais Emmanuel Macron prend bien soin de ne pas jouer cet affrontement direct que cherchent ses adversaires.
Je n'irai pas plus loin, moi je fais ça pour notre pays et vous savez mon attachement à ces questions et je pense que nous devons nous tenir unis, lucide sur notre passé, mais ambitieux pour saisir notre avenir parce que notre peuple le mérite.
Unité, bienveillance, foi en l'avenir, presque un discours de campagne pour celui qui, à quelques mètres de nous ici à Vichy, poursuit son bain de foule.
Simon Le Baron avec Benjamin Thuot en direct de Vichy. Merci à tous les deux. Et voici l'OCDE qui revient à la charge sur les retraites. La crise sanitaire a coupé court au grand système à points voulu par Emmanuel Macron et qui avait mis des milliers de Français dans la rue. Mais le sujet va revenir dans la campagne présidentielle avec une question toujours la même, centrale. Faut-il repousser l'âge légal de départ ? L'OCDE est pour Fabien Cazot.
Premier argument de l'OCDE, les projections démographiques. En 2050, les personnes âgées de 65 ans auront gagné 3 ans d'espérance de vie par rapport à celles qui ont le même âge aujourd'hui. 62 ans d'âge légal pour partir en retraite, c'est donc très bas, d'autant selon l'étude que l'âge moyen réel de sortie du marché du travail est de 60 ans et demi, quand il est de 63 en moyenne dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Repousser l'âge de sortie du marché du travail est donc un enjeu essentiel pour la France, estime l'organisation, du moins si l'objectif est d'améliorer la situation financière des comptes sans pour autant toucher au niveau des pensions. Les dépenses ont augmenté de 2,2 points de PIB depuis l'an 2000. C'est moitié plus que dans l'ensemble de l'OCDE. Et encore, elles ont été relativement contenues grâce aux réformes menées lors des quinquennats précédents. Le sujet est d'autant plus sensible dans un pays comme la France qui tient à sauvegarder son système par répartition. La capitalisation sur les plans d'épargne retraite ne représente que 12% de la moyenne des pays développés. développer.
L'actualité à l'étranger, c'est Olaf Scholz qui promet un nouveau départ à l'Allemagne. Le nouveau chancelier a donc pris ses fonctions aujourd'hui. Nouvel homme fort de la première puissance économique européenne. Le social-démocrate est désormais à la tête d'un attelage inédit formé avec les Verts et les Libéraux. Mais il a l'expérience, Olaf Scholz, plusieurs fois ministre du gouvernement de coalition d'Angela Merkel. Pas du même bord politique, certes, mais la passation de pouvoir a été l'occasion pour le nouveau chancelier de lui rendre hommage.
C'était un grand moment que cette période où vous étiez à la chancellerie. Et vous avez réalisé de grandes choses. Nous avons affronté ensemble de nombreux défis, des crises se sont présentées à nous, dont de nombreuses que nous avons dû gérer ensemble. La crise financière en 2008-2009, les défis liés au grand mouvement de migration en 2015 et les conséquences économiques et sociales de la pandémie de coronavirus. Tout cela nous a soudés. Mais pas seulement ça. Entre nous, il y a toujours eu une grande confiance. Je vous remercie pour le travail que nous avons effectué ensemble. Je me réjouis des tâches qui m'attendent. Ce sera un nouveau départ pour notre pays. En tout cas, je veux tout faire pour ça.
Olaf Scholz avec Nathalie Versu à Berlin qui réservera son premier déplacement à la France, c'est un peu de tradition, vendredi. Tandis que l'ex-chancelière Angela Merkel boucle ses cartons, mais pourquoi faire maintenant? Gardera-t-elle une fonction publique ou retrouvera-t-elle sa maison de campagne en ex-Allemagne de l'Est, Julie Pietri?
Sur des dessins de presse, la chancelière est tour à tour représentée en pantoufles dans une rue en train de pousser un caddie ou devant le miroir de sa salle de bain. Bon, c'est fini, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Angela Merkel a seulement évoqué son avenir par petites touches. Ses priorités, du sommeil, faire une pause, changement radical pour celle dont l'agenda est chargé depuis 16 ans de sommets diplomatiques et de réunions de crise. Je crois que cette situation va beaucoup me plaire. La politique l'a accaparée pendant près de 30 ans, je veux déjà réfléchir à ce que je veux faire, dit-elle, écrire, parler, randonner, rester à la maison ou visiter le monde. Pas sûr qu'elle s'aventure donc sur le chemin emprunté par certains de ses prédécesseurs dans le conseil, les affaires ou le lobbying. Angela Merkel a parlé d'un rêve, voir les montagnes rocheuses aux États-Unis, de son amour aussi pour l'Italie, alors que son mari, chercheur en physique quantique, est devenu récemment membre de l'Académie des sciences de Turin. Pour financer cette retraite, elle touchera en tout cas 15 000 euros par mois et aura à sa disposition 7 collaborateurs plus 2 chauffeurs.
L'Allemagne et son nouveau chancelier salués par l'Union européenne. Ursula von der Leyen se réjouit de travailler avec Olaf Scholz pour construire une Europe forte. La partie s'annonce plus tendue avec la Russie. Olaf Scholz menaçant Moscou en cas d'invasion de l'Ukraine, de conséquences sur le controversé gazoduc Nord Stream 2 qui relie les deux pays. Il y a donc eu une erreur dans l'identification du suspect arrêté hier à l'aéroport de Roissy. On croyait hier soir, on vous en parlait dans ce même journal, avoir mis la main sur un suspect dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Il a finalement été libéré après des vérifications approfondies sur son identité, homonymie presque parfaite. Ce sont des informations venues de Turquie qui ont permis d'expliquer la méprise d'Emmanuel Leclerc.
Oui, les vérifications ont eu lieu directement entre les autorités turques et le parquet général de la Cour d'appel de Paris. Selon nos informations, il y avait bien une homonymie presque parfaite et c'est extrêmement rare dans le cadre de fiches rouges d'Interpol avec un mandat d'arrêt international. Les autorités turques ont affirmé toujours, selon nos informations, qu'il y avait en réalité 4 fiches de recherche au total qui concernent l'un des suspects liés à l'assassinat de Jamal Khashoggi. Avec à chaque fois des identités très proches des Saoudiens passés par Istanbul avant et après le meurtre du journaliste il y a 3 ans. Là, pour l'homme qui a été arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle, on évoque de sources judiciaires un deuxième prénom différent et un souci sur la date de naissance. Les Turcs ont donc au final estimé que le mandat d'arrêt ne s'appliquait pas à ce suspect en particulier et c'est ce qui a entraîné sa remise en liberté immédiate en début d'après-midi.
Emmanuel Leclerc, on apprend aussi ce soir qu'un projet d'attentat a été déjoué. 2 hommes interpellés fin novembre en Seine-et-Marne et dans les Yvelines semblaient programmer des attaques au couteau dans des centres commerciaux ou des rues fréquentées de régions parisiennes. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes. quand les familles des délinquants sont dans le viseur des bailleurs. La justice autorise l'expulsion d'une famille de son logement HLM à Gonesse, dans le Val d'Oise, à cause du comportement de son enfant, des voitures dégradées, une agression d'un gardien. Le bailleur social avait lancé des procédures contre 3 familles au total à la suite de troubles dans la résidence. Mathilde Vinceneux, le tribunal de Gonesse ne lui a donc donné que partiellement raison aujourd'hui.
Oui, la justice a décidé de résilier le bail d'une seule famille sur les 3. Mais ça ne veut pas dire que nous allons l'expulser, précise la directrice générale du bailleur social Toit et Joie, Michel Attard. C'est un dernier recours parce que les parents sont dans le déni complet, explique-t-elle. Ils ne répondent pas aux convocations alors que leur enfant et d'autres sont accusés d'avoir semé le trouble dans cette résidence de 300 logements, la résidence du parc d'Orgemont à Gonesse. Une 60aine de voitures ont été endommagées. Des altercations ont eu lieu dans les parties communes. Pour les 2 autres familles visées, la justice a débouté la demande du bailleur. Dans un cas, la mère a précisé que son enfant avait reconnu avoir cassé une vitre. Dans l'autre, la famille a déménagé. Aujourd'hui, la situation semble beaucoup plus calme, affirme la directrice de Toit et Joie. Elle assure que ces procédures sont rarissimes dans leur parc de 15 000 logements répartis dans toute l'Île-de-France.
Mathilde Vinceneux, dans le Var, le corps de la dernière personne portée disparue dans l'effondrement d'un immeuble de Sanary-sur-Mer a été retrouvé. Le drame a fait 3 victimes. Une enquête va être ouverte au Royaume-Uni sur cette fête de Noël organisée l'année dernière à Downing Street, alors que le Premier ministre demandait au même moment aux Britanniques de renoncer à toute festivité face au Covid. Boris Johnson, qui cet après-midi a dû présenter ses excuses au Parlement.
I understand and share the anger.
Je comprends et je partage la colère provoquée dans tout le pays par le fait que des employés de Downing Street se sont visiblement moqués des mesures de restriction. Et je peux comprendre à quel point il doit être exaspérant de se dire que les personnes qui ont fixé les règles ne les ont pas respectées. Monsieur le Président, cette vidéo m'a mis hors de moi. Je présente mes excuses sans réserve pour l'offense que cela a causée dans tout le pays et pour l'impression que cela donne.
Boris Johnson qui a donc annoncé l'ouverture d'une enquête interne et promet des sanctions si les faits sont avérés. Une conseillère du Premier ministre britannique vient d'ores et déjà d'annoncer sa démission. Il n'y a pas de crainte à avoir avec le Moderna. Le président du conseil scientifique le répète aujourd'hui, ce vaccin marche aussi bien, voire peut-être légèrement mieux que le Pfizer en dose de rappel. Il faut pouvoir utiliser les 2 pour vacciner tout le monde. Sur les quelques 25 millions de Français âgés de plus de 18 ans, 11 millions et demi ont déjà reçu une dose de rappel. L'épidémie de grippe qui n'épargnera pas par ailleurs notre hiver. 3e semaine de hausse des hospitalisations, la région Occitanie est en phase pré-épidémique. L'année dernière, confinement et gestes barrières avaient bloqué quasiment tous les virus. Ce ne sera visiblement pas le cas cette année. Et puis quelques 2 300 000 ménages modestes vont recevoir la prime de Noël. De 152 à 335 euros en fonction de la composition du foyer. Elle sera versée le 15 décembre prochain. Il fallait voir les files d'attente ce matin devant les librairies, de jeunes lecteurs pour la plupart qui voulaient mettre la main sur l'édition collector du 100e tome de la série One Piece. Énorme phénomène que cette saga, manga japonais, 490 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Le dernier tome sortait donc aujourd'hui en France, édition classique et version limitée que les fans se sont arrachés. Reportage signé Delphine Evenou.
Ce matin, en arrivant dans sa librairie jeunesse de la rive gauche, Lucas était très attendu.
C'était un peu la folie. On ouvre le matin dans la semaine à 8h et donc on a eu une vingtaine de personnes qui nous ont tous confirmé qu'ils étaient là pour One Piece. On en a reçu très peu, 4 exemplaires, donc c'est parti en 3 minutes.
À quelques pas de là, dans la librairie Bulle de Savon, le téléphone rythme la journée.
Non, on n'en a plus, désolé.
Pour trouver son numéro collector, ici comme dans beaucoup d'autres librairies, il fallait s'y prendre très en avance. Stéphane Sokol, le patron.
On a mis en place des systèmes de réservation, donc on avait déjà les tomes 100 réservés depuis au moins 3, 4, voire 5 mois. Et sur le classique, j'en ai pris 60. Là, je vais en recommander 40 dans la journée parce que j'en suis déjà à plus de 20 vendus. Pour un One Piece, il se vend encore mieux qu'à l'habitude.
Mathieu, 12 ans, déboule dans la boutique. Il prend le manga par grappe, 8 d'un coup. Il a du retard à rattraper.
Là, j'étais en train de finir le 72 hier. Et là, du coup, j'ai jusqu'au 80 maintenant. Bah, je trouve
trouve que les personnages, ils sont bien. Les dessins, c'est super. Et surtout, des fois, ça me fait rire et tout, c'est bien.
Pour le collector, le collégien s'est cassé le nez ici, mais a été débrouillard.
J'ai déjà réservé, moi, dans une autre boutique.
Le tome 100, édition collector, prix affiché 10,75€, se revend déjà sur Internet, 60 à 90 euros en moyenne et jusqu'à 1000 euros.
Et une saga hors norme dont on va reparler ce soir, Nuit du manga sur Inter de 21h à minuit, invité et auditeur autour de Frédéric Sigrist.